10 en temps universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours, RFI vous donne la parole, RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin nous allons lancer le débat sur l'élection présidentielle au Togo. Le scrutin doit en principe se tenir en mars prochain, mais à la lumière des récents événements au Burkina Faso, eh bien deux partis de l'opposition togolaise vont tenter de présenter un projet de loi pour réviser la constitution. Il s'agit de limiter le nombre de mandats du président de la République. Actuellement, Fornia Simbé peut briguer la magistrature suprême autant de fois qu'il le souhaite et l'opposition veut également modifier le mode de scrutin. Elle réclame une élection à deux tours et non plus à un seul tour. Alors à quelques mois de la présidentielle, que pensez-vous de la démarche de ses opposants? Le texte a-t-il une chance d'être adopté par l'Assemblée nationale? Que vous inspire la perspective de la présidentielle au Togo? On en parle ensemble d'ici une trentaine de minutes. D'ici là, vous continuez à nous appeler. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Plus de 300 messages postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Et vous pourrez évidemment vous exprimer. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, mieux comprendre tous les sujets que nous traitons, notamment dans nos différents journaux. C'est vrai que parfois, nous n'avons pas le temps de vous donner tous les repères pour comprendre effectivement cette actualité qui est riche et en ce moment. On a justement encore des questions sur le Burkina Faso et sur Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina. Bonjour Jacob.
Bonjour.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso, on vous écoute.
Alors, quand la France reconnaît avoir aidé l'ex-président du Burkina à quitter le pays, alors, ma question c'est de savoir pourquoi la France a-t-elle pris cette décision? Quelle forme a pris cette aide?
Alors c'est vrai que François Hollande a reconnu le rôle de la France dans l'exfiltration de Blaise Compaoré après sa démission le 31 octobre. Guillaume Thibault, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci Guillaume d'être avec nous, journaliste au service Afrique d'RFI. Rappelons que le président déchu s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Il était à Yamoussoukro. Il s'est installé dans une résidence d'État pour les hôtes étrangers. Pourquoi la France est-elle intervenue pour exfiltrer Blaise Compaoré?
Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière depuis le Canada où il était en déplacement. François Hollande a en fait fait deux déclarations en moins de 24 heures. Lors de la première, qui a été citée par Jacob, le président français n'a donné aucun détail et donc affirmé que la France avait contribué sans y participer au transfert de Blaise Compaoré. Ensuite, le lendemain, le magazine Jeune Afrique a affirmé que les autorités françaises et l'armée française avaient participé directement à cette exfiltration. Et François Hollande, interrogé le soir à nouveau par les journalistes, a revu ses explications et confirmé à ce moment-là que la France avait joué un rôle direct pour aider l'ex-chef de l'État burkinabé à fuir en Côte d'Ivoire. Concrètement, pour justifier cette opération, François Hollande a mis en avant deux choses. Tout d'abord, des raisons humanitaires. Tout le monde a en mémoire les images de Muammar Kadhafi mort en Libye. Paris avait visiblement des craintes et des peurs que Blaise Compaoré soit blessé, voire tué, si les manifestants pénétraient dans le palais présidentiel, et que si un tel drame arrivait, la paix civile au Burkina soit directement menacée. Second point, le président français a assuré avoir pris cette décision d'exfiltrer Compaoré pour permettre, a-t-il dit, la transition politique. D'ailleurs, selon les informations de RFI, la France a pris soin de prévenir les leaders de l'opposition de cette opération.
Ouais, néanmoins, Paris a craint une polémique, un incident diplomatique.
Alors clairement, avant la seconde déclaration du président Hollande, tous les journalistes ont interrogé le ministère des Affaires étrangères à Paris. Et le porte-parole de ce ministère a eu une déclaration qu'on pourrait qualifier d'ambiguë. Il a dit « il n'y a eu ni ingérence ni indifférence pour gérer cette exfiltration de Blaise Compaoré ». On peut rappeler que les liens entre Paris et Blaise Compaoré sont anciens, les forces spéciales françaises sont installées à la Ouagadougou. Blaise Compaoré a mené ces deux dernières années, par exemple, les négociations sur le Nord Mali. Les accords signés à Ouaga ont permis la tenue des élections présidentielles dans le nord du pays. Dans la foulée de l'annonce de François Hollande, il y a des ONG comme Survie qui s'intéressent à la France-Afrique. Plus récemment, une partie de la société civile burkinabé toutes ces organisations ont critiqué cette opération, car le souhait de certains est que Blaise Compaoré soit retenu au Burkina pour être, si un jour des enquêtes sont menées, jugé dans son pays.
Allez, concrètement, Guillaume Thibault, comment la France a-t-elle exfiltré Blaise Compaoré? C'est la question de notre auditeur, de Jacob. On parle d'un hélicoptère de l'armée française, que savez-vous?
Alors, on va être précis. François Hollande, lui, n'a jamais donné le détail de l'opération. Le président français, toujours au Canada, il a dit « Nous avons veillé à ce qu'il soit évacué en mettant à disposition tous les moyens qui pouvaient être utiles. » C'est pas très précis. Suite à cette déclaration, néanmoins, un diplomate français a confirmé en off, c'est-à-dire qu'il refuse d'être cité, que toutes les informations diffusées par le magazine Jeune Afrique sont vraies. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Blaise Compaoré a été exfiltré à sa demande par les autorités françaises. C'est une opération qui a été réalisée en deux étapes. Vendredi midi, il a donc quitté la capitale, Ouaga, dans un long convoi de 4x4. Ce convoi a pris la direction du sud, précisément la ville de Pau. C'est une ville située non loin de la frontière avec le Ghana. Et c'est aussi une garnison historique du régiment des parachutistes. C'était la garnison d'origine de l'ex-président. Très rapidement, l'ex-président, qui était donc en fuite, s'est rendu compte que c'était un mauvais choix, qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à Pau, qu'il était difficile notamment de traverser le Ghana pour gagner la Côte d'Ivoire de façon discrète. C'est donc là que la France est intervenue directement. L'ex-président et ses proches ont pris place dans un hélicoptère, visiblement un hélicoptère des forces spéciales françaises. Le groupe a ensuite été déposé à l'est du Burkina Faso, sur un petit aérodrome, c'est dans la ville de Fadengourma. Ouais. Cette piste a visiblement permis de faire atterrir un avion qui a rapidement redécollé pour amener Blaise Compaoré et Yamoussoukro. Fin de cette opération d'exfiltration.
Merci beaucoup Guillaume Thibault de toutes ces explications et on s'excuse auprès des auditeurs pour la liaison téléphone qui n'était pas très excellente. Guillaume Thibault du service Afrique des RFI. Jacob, bonne journée à Ouagadougou où il est 8h17. 33 9 693 693 72. Appelez-nous, toutes vos questions nous intéressent, n'hésitez pas. Lucien, vous êtes en Côte d'Ivoire, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions sur la NASA?
Ok. Tous les auditeurs de Mondoukou vous saluent.
Très bien, nous aussi on vous salue.
Ok. J'ai appris il y a quelques semaines, sur RFI, l'explosion d'une navette spatiale de la NASA, quelques instants après son décollage. Mm-hmm. Alors, j'ai deux questions. La première, la NASA a-t-elle prévu un autre moyen de ravitaillement des astronautes de la Station Spatiale Internationale ISS?
Ah, ça c'est une bonne question effectivement. Restez en ligne Lucien, je sais que vous en avez d'autres. Simon Rosé du service Sciences RFI est à mes côtés. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors effectivement, il y a quelques jours, la fusée Antares a explosé, quelques secondes après son lancement. Heureusement, à bord, il n'y avait aucun cosmonaute. Le vol n'était pas habité. En revanche, cette fusée transportait 2 tonnes de vivres et d'équipements destinés à la Station Spatiale Internationale. Faut dire quand même que pour acheminer ce fret, la NASA est tributaire de 2 entreprises privées. Maintenant que cette fusée a explosé, qu'elle n'existe plus, est-ce que la NASA a d'autres moyens pour ravitailler les cosmonautes qui sont au-dessus de nos têtes en ce moment même?
Oui, voilà, en fait, il faut bien le dire, c'est pas la NASA qui a lancé cette mission, c'est bien une société privée, en l'occurrence Orbital Science. Et vous l'avez dit, Juan, la NASA a signé des contrats avec 2 sociétés privées pour ravitailler l'ISS en fret. Il y a Orbital Science, donc, qui a perdu sa fusée Antares, mais il y a aussi SpaceX. SpaceX qui doit justement mener une mission de ravitaillement dans quelques semaines, le 9 décembre. Mais de toute façon, du strict point de vue des stocks à bord de la station spatiale, l'explosion d'Antares n'est pas très très grave, puisque les 3 astronautes qui sont à bord de l'ISS en ce moment ont toujours 4 ou 5 mois de réserve en avance. C'est en revanche plus embêtant du point de vue scientifique. La capsule Cygnus, qui a embarqué pas mal de matériel pour des expériences, en général ce sont des petits laboratoires, voire des lycées, des collèges qui envoient tout ça là-haut pour que les astronautes travaillent avec. Là, du coup, tout est perdu et il n'est pas sûr du tout que ces petites structures aient les moyens de tout racheter.
À suivre donc. En tout cas, l'explosion d'Antares n'a aucun impact sur le ravitaillement en tant que tel de la Station Spatiale Internationale. Vous avez une autre question, Lucien?
Oui, tout à fait, Brad. Cet accident, qui est le tout premier depuis que la NASA travaille avec des opérateurs privés, va-t-il remettre en cause la stratégie de la NASA à travailler avec ces derniers?
Ah. Simon, faut peut-être déjà rappeler d'abord pourquoi la NASA fait appel à des structures privées.
Eh ben en fait c'est tout bête, hein. C'est parce que depuis 2011, la NASA n'a plus les moyens techniques pour envoyer des choses vers la station spatiale internationale. Avant, la NASA elle utilisait sa fameuse navette spatiale, mais le programme a été abandonné en juillet 2011 à cause de l'explosion de la navette Columbia en 2003 avec 7 personnes à bord, mais aussi à cause bien sûr du coût financier des navettes. Du coup, avec les économies réalisées, l'agence spatiale américaine avait lancé le programme Constellation, qui prévoyait à terme le retour de l'homme sur la Lune et la mise au point d'un nouvel orbiteur, d'une nouvelle navette. Mais là, rebelote, le programme est lui aussi annulé. Il n'y a finalement que l'orbiteur qui est développé. Il s'appelle Orion, c'est en partenariat avec l'agence spatiale européenne et il va faire son premier vol d'essai bientôt, le 4 décembre. Mais il faudra attendre 2021 pour sa mise en service effective.
Et donc d'ici là, d'ici 2021, la NASA est obligée de faire appel à des entreprises privées ?
Ouais, tout à fait. C'est à Orbital Science et à SpaceX maintenant que revient la charge de ravitailler la station spatiale. Et même si la NASA le voulait, elle ne pourrait pas faire autrement. Alors après, c'est un débat presque éthique, je dirais. Est-ce que le privé a sa place dans l'espace ? On le voit bien avec l'explosion d'Antares. Il semble de plus en plus certain que c'est le moteur du premier étage de la fusée qui est en cause. C'est un moteur dont Orbital Science a racheté les plans parce qu'en fait, il a plus de 50 ans. Ce sont les Russes qui l'avaient développé pendant la guerre froide dans le cadre de leur programme lunaire. Alors bien sûr, Orbital Science l'avait remis au goût du jour, mais bon, reste que par souci d'économie, ils avaient pris ce vieux moteur plutôt que d'en développer un en partant de zéro, et on voit ce que ça a donné. Bon, je suis un peu dur, hein, vous l'avez dit, tous les précédents tirs d'Antares avaient été des succès, mais Orbital Science a tout de même annoncé qu'il n'utiliserait plus ce moteur à l'avenir. C'est donc le risque avec le privé, hein, d'autant plus qu'aux États-Unis, il y a un véritable esprit du ce qu'ils appellent le try, fail, try again. En français, on essaie, on rate et puis on essaie encore. Parfois au détriment de quelques règles de sécurité, on l'a encore vu la semaine dernière avec l'échec du vol de test de la navette de tourisme spatial de Virgin où une personne là aussi est morte. Mais d'un autre côté, de façon beaucoup plus prosaïque, l'espace ça coûte cher et les organismes publics n'ont plus forcément les moyens de financer de tels projets et se tournent donc forcément vers le privé. Bref, c'est un vrai débat. Une chose est sûre, c'est que cette tendance n'est pas prête de s'inverser puisqu'à partir de 2017, les firmes privées, notamment SpaceX, ne devront plus seulement envoyer du fret vers l'ISS mais également des hommes, des astronautes, puisque là aussi, la NASA n'a plus les moyens de le faire. En ce moment, elle fait appel à la Russie et ses capsules Soyuz, mais politiquement, en période de crise ukrainienne, ça gêne un peu les États-Unis.
Évidemment. Donc la NASA est tributaire de firmes privées, d'entreprises privées, mais aussi des Russes dans son programme spatial.
Voilà, en attendant 2021 résumer. Et le lancement d'Orion.
Merci Simon Rosé d'être venu répondre à Lucien qui nous appelait de Mundoukou, c'est à l'est d'Abidjan. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas vos réactions et notre débat du jour. Me parle au casque en même temps puisqu'on essaie évidemment de rappeler les auditeurs qui souhaitent poser des questions. On parlera dans quelques minutes de la constitution au Togo et de ce projet de deux partis de l'opposition qui veulent présenter un projet de loi pour réviser la constitution et surtout limiter le nombre de mandats du président de la République. Est-ce possible? Est-ce faisable à 6 mois de la présidentielle? Nous en parlerons évidemment. 33 9 693 693 70. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour Juan.
Du service
Bonjour
international des RFI. Eric Alomé nous pose des questions concernant la disparition de 43 étudiants au Mexique. On me dit non, la ligne est trop mauvaise. Eric, tendez bien l'oreille, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Il nous dit bah voilà, l'enquête se poursuit au sujet de la disparition de ces 43 étudiants. Il a du mal à comprendre et à suivre exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, nous dit-il. Que sait-on exactement de la disparition de ces étudiants?
Alors ces étudiants ont disparu donc le 26 septembre. Effectivement, je vais pas peut-être reprendre toute l'histoire, on en a parlé beaucoup sur l'antenne, mais en deux mots, des étudiants étaient allés manifester à Iguala. Ce sont des étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa dans l'état du Guerrero. L'état du Guerrero est au sud de Mexico. C'est un des états les plus violents, mais depuis des décennies. Hein. C'est pas quelque chose de récent. Hein. Ça a toujours été un état extrêmement violent. Ces étudiants voulaient, disent-ils, lever des fonds pour aller, pour se rendre à Mexico pour commémorer en fait l'anniversaire du massacre de Tlatelolco. C'était le 2 novembre 68 et pour cela ils avaient réquisitionné des bus, ils étaient rendus à Iguala, mais le maire en fait avait peur que ça ne déborde puisqu'il y avait déjà eu des débordements en juillet, puisque en fait ces mêmes étudiants étaient allés à Iguala et s'en étaient pris justement à la mairie. Algérie, accusant le maire d'être responsable du meurtre d'un leader social en mai 2013. Oui, donc ça, c'était en juillet 2013, il y avait eu des débordements, donc il y a un an, il voulait pas que ça se reproduise.
Donc le maire qui est souvent effectivement soupçonné d'éliminer ses opposants.
Voilà, on en répondra peut-être à la deuxième question, justement, parce que le maire effectivement est mêlé de très près à tout ce qui s'est passé, puisque le maire a ordonné que les policiers tirent sur les étudiants. Donc effectivement, ces étudiants sont partis, ils sont remontés dans des bus, enfin le bus a été à nouveau arrêté, mais la police municipale a fait appel justement à des groupes criminels, Guerreros Unidos, qui est un peu le cartel local, qui contrôle la route du trafic de drogue vers les États-Unis, et Chicago.
Voilà, ouais,
exactement. Et donc les policiers municipaux ont remis donc ces étudiants à ce groupe. Et c'est là qu'ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il y en a 57 qui ont été pris, 14 ont réussi à s'échapper et donc sont revenus en vie, mais 43 manquent toujours à l'appel. Alors aujourd'hui, que sait-on ? Eh bien, finalement, on ne sait pas si on sait grand-chose, parce qu'il y a eu beaucoup de fosses clandestines qui ont été trouvées, donc avec un certain nombre de corps, plus de 38 corps ont été découverts, mais les tests ADN ont révélé que ce n'étaient pas les étudiants. Alors, sont-ils
d'ailleurs ? Des charniers découverts dans cette ville, voilà.
Enfin, pas dans la ville, enfin,
dans les environs.
Dans les montagnes, parce que c'est quand même une région un petit peu montagneuse, donc de la forêt, c'est compliqué. Et donc, un certain nombre de charniers, alors effectivement, qui sont-ils ? Déjà, on peut se poser la question. En tout cas, ce ne sont pas les étudiants. Et puis, il y a aussi un problème de confiance, puisque la société mexicaine se pose beaucoup de questions concernant leurs autorités. Ils n'ont plus confiance dans leurs autorités. Il y a des collusions évidentes entre le politique, la corruption, le crime organisé, le trafic de drogue. Donc, les Mexicains n'ont plus confiance dans leur système politique, dans leur gouvernant, dans la gouvernance même au Mexique. Et ce n'est pas que dans le Guerrero, c'est dans tout le pays. Oui. Donc cette histoire a fait... C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, dernière information, c'est que, vendredi, le procureur a révélé que trois des suspects qui ont été arrêtés, qui appartiennent à Guerreros Unidos, auraient fait des révélations et auraient dit que, ils avaient effectivement récupéré ces étudiants, qu'ils les avaient exécutés, qu'ils avaient ensuite répandu de l'essence, mis le feu, fait un énorme bûcher qui a duré pendant plus de 14 heures. Voilà, c'était épouvantable. Et ensuite, ils ont récupéré les cendres, les ont mis dans des sacs et les ont jetés dans une rivière. Alors, est-ce que c'est vrai ? Du coup, les familles ne croient plus personne. Donc, elles disent, ok, nous, on veut des preuves. Le problème, c'est qu'il ne reste plus que deux petits os récupérables pour éventuellement trouver, enfin, faire des tests ADN pour pouvoir
identifier
ou pas. Et donc, ce serait la preuve. Et la situation se tend, puisque les familles des disparus n'ont plus confiance. Il y a eu des débordements à Mexico, donc dimanche.
Grosse manifestation, hier à Acapulco,
60 000 personnes à Mexico quand même, donc c'est énorme. Acapulco, effectivement, du côté de l'aéroport, avec des affrontements, des accrochages avec les forces de l'ordre. Donc la situation se tend. Peña Nieto, lui, est parti en Chine.
C'est le président du Mexique.
Le président du Mexique est parti en Chine pour le sommet de l'APEC, puis en Australie pour le sommet du G20. Les familles des disparus et la société mexicaine, enfin beaucoup de la société mexicaine, l'accusent d'avoir pris la fuite d'une certaine façon et de ne pas être resté dans son pays pour s'occuper de ce problème en particulier.
À suivre, en tout cas. Véronique Guémard, on est obligé de rendre l'antenne. Je sais qu'Éric, avec d'autres questions, va essayer évidemment de le rappeler et de l'avoir en ligne. Merci de rester avec nous. Dans un instant, le point complet sur l'actualité. Et n'oubliez pas, dans 10 minutes maintenant, notre débat du jour, la constitution au Burkina Faso. À quelques mois de la présidentielle, que vous inspire la démarche de deux partis de l'opposition qui veulent à tout prix limiter le nombre de mandats du président de la République et modifier le mode du scrutin, l'opposition qui réclame une élection à deux tours et non plus à un seul tour. Ce texte sera-t-il adopté par l'Assemblée nationale ? 33 9 693 693 70. À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.